Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Bellux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.
Bienvenue à Radio Free Gaza. Bienvenue Suzy, bienvenue Stéphanie.
Bienvenue Hans.
Merci. Bienvenue au 14e épisode entre-temps. Hein. Et à ce rythme, on pourrait encore continuer un petit moment. Aujourd'hui, toujours de Tunis, on aura Alexis de Soif en direct, Alexis de Soif de la délégation belge. Et ensuite, un entretien avec, avec Didier Leroy, chercheur au Centre d'études de sécurité et défense. Il va nous raconter l'histoire du Hamas. Voilà, tout un programme. Mais essayons d'abord d'appeler Alexis.
Allô.
Bonjour Alexis, c'est Hans ici de Radio Free Gaza.
Bonjour Hans.
Comment ça va?
Ça va, ça va.
Oui, vous êtes toujours à Tunis, on a compris.
On est à Bizerte.
Ah oui, c'est tout près, c'est quoi, c'est une trentaine de kilomètres?
Oui, tout près. On a mis 15 heures de navigation pour venir de Tunis jusqu'à Bizerte, en remontant le vent. Donc ça ne nous a pas semblé tout près, mais je pense que par la route, c'est une heure.
Oui, effectivement, quand j'ai regardé le tracker, j'ai vu qu'il y avait des voiliers qui ont fait du zigzag pour aller...
Oui, parce qu'on avait, le vent au contraire.
Ouais.
Et donc on a été obligé de changer de bord au moins une cinquantaine de fois, ce qui entraîne chaque fois des manœuvres pour bouger les voiles.
Oui.
Mais qui augmente sensiblement le temps de navigation. Et donc, on est arrivé ici à Bizerte. On est parti à 11h du matin de Tunis et on est arrivé ici à 2h30 du matin.
Ah oui, ok.
Bonjour Alexis, c'est Stéphanie.
Bonjour Stéphanie.
On a vu aussi, en regardant le tracker qui se trouve sur le site internet de la Global Sumud Flotilla, que les bateaux d'Italie avaient été ajoutés à votre tracker. Donc c'est bien. Donc donc ça fait j'ai plus 39 je pense bateaux. Je sais pas si tous partiront tout à l'heure avec vous, mais en tout cas ils ont été ajoutés. Donc c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous avez une nouvelle de votre départ?
Alors on devrait partir d'un moment à l'autre.
Ok.
Il y a déjà des bateaux qui se sont détachés, qui se dirigent vers l'entrée du port. Nous on est encore coincé entre deux autres voiliers et donc on devrait partir dans la demi-heure qui vient.
Ok, donc c'est bon signe alors. Moi, oui. j'avais deux questions pour toi. J'en ai une qui concerne la sécurité ou plutôt les événements qui se sont passés. Est-ce que vous avez vu une différence dans la sécurité par rapport à ce que l'État tunisien fait autour de la flottille, par rapport aux deux attaques de drones, ou bien vous n'avez pas vraiment vu ça autour de vous, senti?
Alors, au port de Sidi Bou Saïd, où il y a eu les deux attaques de drones, donc la nuit de lundi à mardi et la nuit de mardi à mercredi, la nuit suivante, j'étais moi de surveillance sur le bateau et on a vu effectivement des bateaux de l'armée tunisienne et de la police, la garde nationale, patrouiller entre nos bateaux. Donc nos bateaux avaient jeté l'ancre juste à la sortie du port. Et donc il y a eu plus de patrouilles. Il y a eu aussi un drone de la police donc qui surveillait. Et donc, effectivement, une augmentation de la surveillance. On a dû quitter un port, Sidi Bou Saïd, un peu poussé par les autorités tunisiennes, parce qu'en fait, le président a sa résidence à 1,5 km, et que ces attaques de drones, ça commençait à bien faire et être un peu embarrassant pour la présidence. Et ils nous ont un peu poussé en disant qu'à Bizerte, on était les bienvenus. Le port, l'entrée du port est plus grande. Donc là, on a pu docker les bateaux. Et depuis lors, on a quand même passé 2 nuits ici. Le temps de faire les dernières réparations, les derniers préparatifs et les changements de composition des bateaux. Parce qu'il y a quelques bateaux qui ne prennent pas le départ. Donc ils ont dû bouger un peu les compositions des bateaux.
Oui.
Mais ici, on voit une présence de l'armée et de la police, avec notamment du matériel anti-drone et une surveillance 24 heures sur 24 de la police et de l'armée.
D'accord, ok, merci. Alors j'ai aussi une autre question. Alors je sais que vous êtes très occupé hein, là-bas, c'est pas comme si vous étiez en vacances, donc vous avez beaucoup de choses à faire.
C'est
et
moins
à...
compliqué.
J'ai une petite idée de ce que ça peut être, mais juste une petite idée théorique. Mais ceci dit, vous et toi particulièrement, je suppose que de temps en temps tu jettes un œil quand tu peux à ce qui se passe dans l'actualité, j'imagine bien. Tu as sans doute vu que la déclaration de New York avait été adoptée et que la Belgique l'a signée. Ce qui veut dire que on se dirige vers une solution à deux États avec des conditions concernant le Hamas, mais la question c'est comment est-ce que vous vous sentez là-bas dans la délégation belge, enfin si vous en parlez, le fait que la Belgique fait ce type de déclaration à ses intentions et en même temps ne fait aucune déclaration claire pour vous protéger en tant que citoyen belge ou pour protéger la flottille. Et elle se contente de dire qu'il y a un danger et qu'il vaudrait mieux ne pas y aller.
Alors, l'important, ce n'est pas nous, ce n'est pas la flottille. L'important, c'est évidemment Gaza. Mm-hmm. Et on suit évidemment les derniers événements, enfin événements, c'est pas le mot, à Gaza, les dernières attaques sur Gaza City, les derniers bâtiments encore debout qui se font raser, notamment le bâtiment où l'Organisation de défense des droits humains, le Palestinian Center for Human Rights, avait son siège, le PCHR, qui a été complètement rasé alors que c'est un bâtiment civil. Extrêmement choquant, avec déplacement de la population et nettoyage ethnique qui se poursuit dans le nord de Gaza. Sans aucune réaction de nos gouvernements. On laisse faire cette armée génocidaire israélienne. Alors oui, on a signé la déclaration de New York, mais on voit bien que les partis de la coalition gouvernementale belge ont des interprétations différentes, des conditions. Certains partis ont l'air de voir comme une victoire qu'ils ont pu ajouter tellement de conditions qu'ils se disent qu'ils peuvent aller pavaner sur des sites d'information pro-israéliens que c'est pas demain la veille que la Palestine sera reconnue par la Belgique. D'autres pensent que ça règle tout et que maintenant le problème est réglé parce que la Belgique a pris position. C'est trop peu, c'est trop tard, c'est insuffisant. On devrait être gêné, avoir honte de réagir aussi tardivement et aussi faiblement et face à l'urgence de la situation à Gaza, et alors qu'on a les leviers pour mettre fin à cela. Même chose pour la déclaration de politique générale de Ursula von der Leyen, qui fait une petite courbe rentrante en disant qu'il faut envisager une suspension, en tout cas partielle, de l'accord d'association Union européenne-Israël. C'est beaucoup trop peu, c'est beaucoup trop tard, et donc il faut plus. On peut faire mieux, on l'a montré avec la Russie. Pourquoi ne pas le faire avec Israël? Ce double standard est absolument insupportable. Alors, par rapport à la flottille, je pense qu'il y a un certain embarras au sein de nos gouvernements qui voient le soutien populaire et l'engouement de la population, enfin des citoyens qui agissent à la place de nos gouvernements, qui auraient dû faire ça. Monter comme ça une flottille d'aide humanitaire en quelques semaines, c'est une prouesse. Alors, ce n'est pas parfait, mais normalement, c'est le job des gouvernements et de leurs armées, etc., et qui sont équipés pour. Ils ne l'ont pas fait. Ils doivent être un peu gênés de voir que des citoyens ont réussi à le faire. Et donc, du bout des lèvres, ils disent « Ok, on n'encourage pas les flottilles, mais quand même, il ne faut pas les attaquer. » Eh bien, on attend beaucoup plus d'eux.
Oui, tout à fait.
Ils doivent formuler un soutien clair, formel, en disant « Cette flottille, elle ne fait rien d'illégal, elle apporte de l'aide humanitaire à Gaza, elle veut ouvrir un couloir d'aide humanitaire, vous n'y touchez pas. » Ça, ça doit être le message vers Israël. Il faut que Maxime Prévost convoque l'ambassadrice d'Israël en lui disant « Vous transmettez le message, on ne touche pas à cette flottille, en plus il y a des Belges à bord, s'il leur arrive quoi que ce soit, c'est votre responsabilité. » Ça, c'est vu que la diplomatie ne fonctionne pas, il faut un langage clair. Et il faut arrêter d'avoir peur comme ça de ce gouvernement, qui est un gouvernement fasciste, qui conduit une politique coloniale et maintenant génocidaire.
Oui, et exactement. Et en tout cas, la honte, elle est de leur côté. Elle n'est pas du nôtre, elle n'est pas du vôtre. Elle n'est certainement pas du côté du soutien populaire que vous pouvez avoir aussi. Et les gens ne s'y trompent pas. Quand ils soutiennent la flottille, ils soutiennent les Palestiniens, ils soutiennent les gens à Gaza. Ils savent exactement ce qu'ils soutiennent. Tout à fait. Merci beaucoup, Alexis. Bon voyage.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Voilà, donc Alexis, il était bien clair. Et donc, nous allons poursuivre avec l'entretien avec Didier Leroy. C'est très simple, il va nous expliquer l'histoire de Hamas. Voilà, ça dit tout.
Il y a un petit d'être ici. Hein.
Bonjour, monsieur Leroy. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots d'où vient le Hamas? Quelles sont ses racines?
Alors, les racines tout d'abord idéologiques du Hamas se trouvent bien dans ce que l'on appelle la mouvance des frères musulmans, le mouvement dit islamo-frériste, hein, qui est donc cette confrérie créée en 1928 en Basse-Égypte par un certain Hassan al-Banna et qui est en fait une réaction à l'occupation britannique de l'Égypte de l'époque et qui est un courant idéologique qui cherche à relever un petit peu la région du Moyen-Orient suite au choc du démantèlement de l'Empire ottoman. Rappelons au passage que l'Empire ottoman, dit d'une autre manière, c'est la dernière phase dynastique du califat historique. Et donc on a cette idéologie qui va progressivement prendre le pas sur le nationalisme libéral et puis sur le socialisme arabe ou arabiste.
Oui, et donc ça commence en Égypte avec les frères musulmans et ils se répandent vite dans le monde arabe.
Oui, tout à fait. Hein. Avec le siècle de recul ou presque dont on dispose, on peut regarder le voisinage sud et sud-est de l'Europe à travers ce prisme-là et réaliser en fait que les frères musulmans ont essaimé et donc ont produit à travers donc la diffusion de leur idéologie, on produit la plupart des mouvements, voire des partis politiques d'opposition dans les pays du Maghreb et du Levant. Et c'est ce qui explique que chaque pays ou presque concerné dispose donc, présente une émanation locale, nationale de cet islamo-frérisme. Et donc on a par exemple le PJD au Maroc, Ennahda en Tunisie, l'AKP en Turquie, Al-Islah au Yémen, le Front d'Action Islamique en Jordanie, et ainsi de suite.
Oui, mais en Palestine, en Israël, dans un premier temps, ce ne sont pas les frères musulmans qui incarnent une résistance palestinienne, c'est plutôt l'Organisation de libération de la Palestine, Fatah, qui sont des mouvements plutôt laïcs.
Oui, alors le Fatah est évidemment le phénomène milicien palestinien le plus emblématique hein, de ce nationalisme arabe, décliné donc à l'échelle surtout de la Cisjordanie, où le mouvement est encore essentiellement implanté hein, à travers l'autorité palestinienne à Ramallah, ouais. Tandis que c'est bien dans l'autre enclave palestinienne occupée, la bande de Gaza, que le Hamas va progressivement prendre corps. Il va émerger en fait pendant la première intifada, alors que le Fatah est encore bien présent et bien visible, mais ce dernier perd progressivement sa crédibilité en termes d'acteur milicien face à Israël. Et donc, dès la deuxième intifada, eh bien, le Hamas va complètement éclipser ce rôle de faction résistance qu'avait auparavant le Fatah. Et donc, c'est ce qui explique que par après, le Hamas va continuer à croître et à gagner en visibilité. Alors, la visibilité, ça se gagne évidemment à travers la couverture médiatique. Et c'est durant la seconde intifada que le Hamas a surtout très vite gagné en visibilité à travers, évidemment, les attentats kamikazes.
Oui, mais je vais retourner un peu en arrière parce que donc les frères musulmans sont déjà présents à Gaza fin des années 60, où en fait ils jettent leur base. Donc ils pompent des charités, il y a des mosquées, etc. Et à ce moment-là, ils sont vus d'un œil plutôt favorable par les autorités militaires israéliennes.
Oui, tout à fait. Alors, le Hamas, d'un point de vue idéologique, est très différent du Hezbollah libanais, mais d'un point de vue structurel, c'est assez comparable. On a une sorte de mouvement qui est à la fois milicien et à la fois social, hein, et donc tout un réseau de cliniques, d'écoles, d'aides sociales en tout genre, de la charité d'une manière générale. Et c'est au fil du temps que l'on gagne quelque part en influence et que l'on peut instaurer, on va dire, quelque part son contrôle sur un territoire pour devenir progressivement une sorte de phénomène proto-étatique. Alors, c'est en effet en miroir de l'évolution du Fatah qu'il faut comprendre cette croissance du Hamas, puisque à l'époque, c'est bien le Fatah qui était la véritable bête noire pour le gouvernement israélien, ce qui a expliqué que les autorités israéliennes ont vu quelque part d'un bon œil le développement de ce contrepoids au Fatah.
Oui, et l'OLP qui, dans le processus des accords d'Oslo, à un moment décide de déposer les armes et d'aller pour une solution des deux États.
Oui, alors c'est évidemment les accords d'Oslo qui marquent un tournant où Yasser Arafat tente quelque part quelque chose de très audacieux, mais qui n'est pas sans risque. C'est en gros de reconnaître l'État d'Israël en contrepartie de quoi lui se voit reconnu comme le président d'une autorité palestinienne qui est désormais l'interlocuteur officiel d'Israël. Donc c'est ça qui est quelque part concédé par la partie israélienne, mais cette dernière consolide dans la foulée sa suprématie en termes de gestion de la sécurité et de contrôle en fait militaire de la Cisjordanie. Et ça s'illustre assez facilement à travers les fameuses zones A, B et C qui font référence aux zones respectivement contrôlées par l'autorité palestinienne exclusivement, par Tsahal exclusivement ou géré de manière conjointe.
Oui. Ben aujourd'hui, Hamas, évidemment, a très fort changé. Enfin, Gaza n'existe plus comme avant, en fait. C'est difficile de prévoir ce qui va se passer, mais est-ce que vous pensez que Hamas serait prêt à lâcher prise, lâcher le pouvoir au Gaza en échange de paix?
Alors, c'est très difficile de se prononcer par rapport à l'avenir, hein. Le Hamas est quelque part extrêmement mal mis, puisqu'il est, d'un point de vue militaire, démoli. Il n'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être dans le passé en termes d'acteurs miliciens. Alors certes, il peut continuer à enrôler des nouvelles recrues puisque ce ne sont pas les orphelins assoiffés de vengeance qui manquent à Gaza, c'est évident,
Oui.
et que le seul employeur, le seul recruteur quelque part dans la bande de Gaza, c'est probablement lui. puisque toute l'économie a été complètement atomisée par les différentes campagnes israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Mais en attendant, d'un point de vue des infrastructures, du hardware, donc des véhicules, de l'armement, de l'arsenal de projectiles, énormément a été détruit. Et donc, quelque part, la composante armée du Hamas, donc les brigades Qassam, ne sont déjà de facto plus ce qu'il était auparavant et ne pourra sans doute pas se relever de ces 2 années de guerre qu'il vient de traverser.
Ok, je comprends. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Leroy.
Merci à vous.
Et
J'espère que ça pourra être utile.
certainement, j'en suis sûr. Voilà, c'était l'entretien avec Didier Leroy. On est de nouveau presque à la fin de notre émission. Demain, qu'est-ce qu'on a au programme? Demain, on aura, pour l'entretien, on aura Jeanne Sfeir qui va nous parler de Marwan Barghouti,
Oui.
qui est parfois surnommé le Nelson Mandela palestinien, qui se trouve dans une prison en Israël depuis longtemps et qui récemment est de nouveau, on a de nouveau parlé de lui puisqu'il y avait un ministre israélien qui a spécialement été en prison pour aller le ridiculiser pour
et le
sortir,
menacer.
et pour le menacer. Donc voilà, donc en voyant ça, j'étais curieux de savoir qui est ce monsieur et on va en parler demain.
Parfait.
Voilà, donc c'est la fin de l'émission.
Merci.
Merci à toi aussi. Et à demain.
Et à demain. Radio Free Gaza.
Radio.
Radio Free Gaza.
Free. Gaza. Un billet d'information intercommunautaire. Belux.
Tous les jours de la semaine, de 17h à 17h30, et le week-end, de 15h30 à 16h.
En direct sur Radio Air Libre, 87.7 FM.
Rediffusé sur Radio Panique, 105.4 FM, à Bruxelles.
Une émission qui fait le lien entre la flottille internationale pour Gaza et vous.
Retrouvez les podcasts sur le www.radiofreegaza.net.